Alors, je vais vous parler de l'atelier numéro 3, donc valeurs culturelles, sociologie et économie. C'est l'animateur Jean Alardi qui a introduit l'atelier en élargissant le sujet de la réappropriation du saumon au poisson migrateur et à la rivière en général. Je remercie d'ailleurs les intervenants au passage et je remercie aussi l'audience d'avoir accepté qu'on donne plus de place aux intervenants qu'au débat compte tenu de l'horaire, donc il n'y a pas eu beaucoup de débats, malheureusement. Alors Louis Sauvadet a rappelé ce que l'activité pêche représentait dans le passé récent sur le plan économique, tourisme de pêche, commerce du poisson jusqu'à Paris, et aussi sur le plan culturel, par cette rencontre annuelle entre des pêcheurs venus de loin, les pêcheurs locaux et la population. Alors, première observation, cette notion de rendez-vous annuel qui célèbre le retour du saumon, ça représente peut-être une piste à revisiter pour sensibiliser les habitants de la vallée de l'Allier. La question d'une réouverture raisonnée et contrôlée de la pêche au saumon est évidemment apparue très tôt, tout de suite, au début de l'atelier, avec Louis Sauvadet d'abord, puis ensuite avec Antoine Lardon, qui ont tous deux prôné une échéance proche, arguant de l'intérêt de remettre les pêcheurs en position de sentinelle sur la rivière et aussi de révélateur de la présence du saumon pour les riverains. C'est vrai que quand il n'y a plus de pêcheurs, reviens ici, il n'y a plus de poisson, plus de saumon. Tout comme Jean-Yves Kermarec, qui nous a démontré de façon très convaincante la pertinence et l'efficacité de la dynamique mise en œuvre sur le bassin de l'Élorme. Il a insisté au passage sur deux points. L'importance d'une gouvernance unitaire à l'échelle d'un bassin cohérent et donc, dans certains cas, la nécessité de regrouper les APPMA. Je sais que c'est un sujet sensible, je ne le connais pas bien, mais j'imagine bien. Il a insisté aussi sur les effets catastrophiques du manque de contrôle, avec la persistance du braconnage qui en résulte, non pas tant sur le cheptel des saumons, que sur l'effet désastreux produit vis-à-vis des pêcheurs réguliers en termes de crédibilité des politiques de gestion. Sur ce sujet, le professeur Boussex, j'ose vous appeler professeur, tellement vous nous avez emmené dans un discours totalement cohérent et passionnant, nous arrivera une analyse sur l'historique du droit en matière de protection des espèces et de leurs habitats. Il en a expliqué les origines, il a expliqué aussi le retard du droit français dans ce domaine par rapport aux autres pays concernés. Et il a insisté sur l'indigence manifeste de nos tribunaux quant à l'application effective du droit de l'environnement, à partir de quelques exemples effectivement révoltants. Là aussi, il me semble y avoir une source de progrès évidente, autant pour la préservation des saumons et des rivières que pour leur prise en considération par l'ensemble des citoyens. Tout change, par exemple, lorsque le pollueur de l'eau récidiviste est considéré comme un délinquant par les tribunaux et pas seulement comme un grossier négligent, ce qui semble être le cas actuellement vu la légèreté des peines infligées. Les effets d'une telle révolution culturelle pourraient même être assez rapides dès lors qu'une décision serait prise dans ce sens au plus haut niveau. Dans l'immédiat, il ne faut pas hésiter à engager le dialogue avec les procureurs, nous a-t-il dit. Il paraît que c'est assez payant. Quant au pêcheur professionnel, Philippe Boineau, il nous a alerté sur les conséquences de la prolifération du silure, M. Vauclair en a parlé tout à l'heure, qui fait de certaines passes à poissons son terrain de chasse et commence à décimer sérieusement l'emploi à l'ose, saumon et anguille. Il est important que les autorités de la pêche prennent des mesures sérieuses au sujet de ce super prédateur. Évaluation des impacts du silure, on en a parlé. Classement en espèce nuisible, je sais que c'est difficile, je ne connais pas le problème, mais j'imagine. Interdiction de le remettre à l'eau. Sur ce troisième point, on a bien noté une évolution culturelle récente, enfin assez récente, qui a été pointée du doigt avec l'apparition de cette nouvelle catégorie de pêcheurs, très présents sur Internet, par les films de leurs exploits, dont l'objectif est de prendre des gros poissons et de les remettre à l'eau pour pouvoir les repêcher encore plus gros, sous l'alibi du no-kill, etc. Il semble même que ces obsédés du plus gros silure soient prêts à tout, à enfreindre les lois en pêchant la nuit par exemple, ou même à proférer des insultes et des menaces à l'encontre de ceux qui se préoccupent des impacts du monstre. Une évolution culturelle parmi d'autres, tout à fait à la croisée entre société de consommation et de loisirs, le poisson n'est plus qu'un jouet, un instrument de plaisir, et la société médiatisée du défi et du record. Il faut prendre en compte ces évolutions culturelles. Et il ne faut pas les subir. Ça veut dire que probablement, il faut aller chercher sur ce terrain-là, sur Internet, sur le record, sur ce qui fait palpiter nos concitoyens, peut-être des moyens de communication. On comprend bien que lorsque les silures seront assez reconnues... Oui, pardon. À ce sujet, Philippe Boineau nous a livré deux pistes intéressantes. Une contribution effective des pêcheurs professionnels aux observations scientifiques, permettant d'orienter les politiques halieutiques, et aussi le grand intérêt d'une valorisation économique des espèces surabondantes ou préjudiciables aux équilibres, comme le silure. Il nous a dit, par exemple, aider le saumon, manger du silure. On comprend bien que lorsque les silures seront assez reconnues pour leur valeur culinaire et vendues comme telles par les restaurants et les poissonniers, une certaine régulation devrait s'opérer pour ce poisson envahissant qui n'a d'autre prédateur que l'homme. Surtout que quand on mange des silures, on mange les petits, parce que les gros sont pas bons, gras, etc. Donc si on mange les petits, on limite de fait la capacité de reproduction au lieu d'attendre qu'ils soient gros et encore plus gros, etc. etc. Donc il y a peut-être un levier intéressant. On touche à l'aspect culturel et économique du sujet. Et on voit bien par cet exemple comment les différents domaines culturels, juridiques, sociologiques et économiques peuvent s'allier pour trouver une solution ou contribuer à une solution à ce problème écologique. Enfin, M. Don Staniford du Protect Wild Scotland nous a alerté par une démonstration sur le ton d'humour noir et avec des images choc de l'effrayante réalité que représente le développement des fermes d'élevage de saumon, en plus des risques pour la santé publique. Pollution génétique des saumons sauvages, transmission de parasites, des poux, etc. Parlant de la concurrence faite aux pêcheurs professionnels par ces fermes aquacoles, il a rappelé avec humour que, depuis Abel et Caïn, le fermier a toujours tué le chasseur. C'est une réflexion très, très pertinente. Il a déclaré aussi que, bizarrement, c'est en mangeant du saumon sauvage qu'on protège le mieux le saumon sauvage. Ça aussi, ça fait bien réfléchir. Encore une révolution culturelle dans notre société occidentale hypocrite qui s'émeut de la cruauté de la chasse ou de la pêche quand elle s'accommode très bien de l'élevage concentrationnaire. Quelle solution à ce problème alarmant? Des lois, probablement, d'interdiction, de régulation? Des mesures de boycott du saumon d'élevage, comme on commence à le faire aux États-Unis, y compris dans certaines grandes distributions? On voit bien, là encore, les différents domaines sont extrêmement mêlés. La sociologie, l'attitude du consommateur, l'économique, l'hégémonie de l'industrie agroalimentaire et de la grande distribution, et le culturel. Le saumon peut-il être encagé comme les poulets industriels pour être ravalé au rang d'un bien de consommation? Alors, malgré le peu de temps qu'on a pu laisser au débat, il ressort de cet atelier que ces leviers sociologiques, culturels, économiques et juridiques doivent impérativement être invoqués pour rendre plus efficaces les politiques de restauration du saumon.